et à 22h, les musiques de films. Et puis tout de suite, je vous le disais, en direct, le libre journal de Serge de Beckett. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, il est juste 18h.
La radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 12 mars de 18 à 21h, en différé jeudi 13, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085. Par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Je vous souhaite une très bonne fête de Ashura. Vous savez pas ce que c'est que la fête d'Ashura? Ben moi, je le sais. Moi, je le sais parce que j'ai sous les yeux le calendrier Air France des fêtes légales françaises et musulmanes. Alors, pourquoi Air France nous donne-t-il les dates des fêtes musulmanes? J'en sais rien, mais aujourd'hui, enfin demain pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui et aujourd'hui pour ceux qui m'écouteront demain, c'est pas mal ça, hein? Autrement dit, jeudi 13 mars, ça sera la fête de Ashura, qui est la fête de l'aumône. Alors, chers amis musulmans, puisque c'est la fête de l'aumône, je vais vous dire une chose, il y a un moyen très simple de faire l'aumône. Prenez un abonnement au Libre Journal, 110 euros, et je vous accueillerai avec bienveillance et sympathie. Surtout en ce moment, on est copains comme cochons, j'allais dire comme cochons, pardon, non, c'est, ouais, on peut pas être copains comme cochons avec des musulmans, on est copains, hein, on se fait pas la guerre, donc, enfin en Irak, parce qu'en France c'est quand même autre chose, hein. Si on lit un peu l'actualité, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait pareil, mais enfin, comme disait mon ami Roger Mine, que j'ai déjà causé deux à ce micro...
Comment il cause ses zigs? Oh là là!
Alors il disait, voilà, je lis quand même son texte parce qu'il est superbe. Merci beaucoup pour les belles villes que vous nous avez construites, les routes, les chemins de fer, les hôpitaux, tout en ruine aujourd'hui. Jamais un ex-colonisé n'a prononcé ces paroles s'adressant à un Français ou à un Belge. ni merci de me nourrir gratuitement, de m'habiller, de me soigner, d'essayer de m'inculquer quelques éléments d'instruction scolaire. Merci à la France de m'avoir complètement pris en charge. Cette phrase n'a jamais été adressée à un Français ou à un Belge par un brûleur de voiture, ni par un jeteur de boîte à outils du 7e étage sur la tête d'un pompier. La barbarie, il est vrai, n'a jamais connu la reconnaissance du ventre. Je vous lis pas la suite parce qu'après on parle de choses qui pourraient déplaire. Donc ça, si vous voulez la suite, écoutez, si vous voulez la suite, il faut vous abonner à... naturellement, j'ai oublié la moitié du journal. Le cri de la chouette. On va certainement me communiquer l'adresse du cri de la chouette. C'est très bien fait. C'est une petite feuille très très bien faite et très intelligente que fait Roger Mine. Roger Mine qui est l'homme qui a inventé, non pas le franglais, mais le mot franglais. Donc je vous rappelle, pour la Choura, abonnement au Libre Journal, 110 €, 4 place France Lille, 75 €10 Paris, ordre de SDB. Voilà, je pense que ça va marcher. On va voir, pas sûr, mais enfin on aura essayé en tout cas. Pour une fois je suis d'accord avec Lang aussi, j'ai décidé d'être d'accord avec tout le monde ce soir. Parce que Lang a dit qu'il fallait que le pape aille en Irak. C'est une bonne idée. Hein, de toute façon, on y gagne. Donc, voilà, il faut que le pape aille protéger, parce qu'il pense, Jack Lang, il a pas très bien compris le film, que si le pape va en Irak, Bush, le baptiste, n'osera pas bombarder. C'est vrai qu'on n'a jamais vu un baptiste ou un protestant tuer un catholique. Hein, ou alors très rarement, hein, ou alors par erreur. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faudrait dire, c'est vrai, c'est un auditeur qui me faisait remarquer ça, il a bien raison cet auditeur-là, c'est qu'on voit de plus en plus de réactions, M. Ferry par exemple, et autres lieux découverts à marée basse, qui nous disent que l'antisémitisme est de plus en plus vigoureux en France, ce qui est vrai, mais, dit-il, M. Ferry, il avait dit ça là, il y a 15 jours, c'est un antisémitisme particulier qui vient plus des milieux islamo-maghrébins, ce qui fait qu'il est moins grave quand même, il avait dit ça, hein, moins grave que l'antisémitisme d'extrême droite. C'est quand même un peu effrayant de voir que le ministre de l'éducation sikh, national sikh, est un pareil imbécile. Mais enfin, il semblerait que ce soit une chose assez partagée dans le ministère actuel. Et alors, j'ai envie de lui rappeler qu'il y a très très longtemps, mais il y a au moins 25 ans que M. Jean-Marie Le Pen... a répété qu'un jour la communauté israélite se mordrait les doigts d'avoir autant concouru à l'installation sur le territoire français de centaines de milliers d'arabo-islamiques, notamment en provenance du Maghreb, et à l'érection de lois qui interdisent de souligner cette surabondante présence. Et maintenant, les mêmes qui ont semé trouve que c'est extrêmement désagréable de récolter. Vous savez, il y a un vieux dicton français qui dit quand on crache en l'air, il y a toujours un moment où ça finit par vous retomber sur le coin de là. Je ne dis pas le mot parce que on est à Radio Courtoisie, mais si on était ici maintenant, par exemple, je dirais sur le coin de la gueule. Mais bien sûr, à Radio Courtoisie, on ne peut pas dire ça. Voilà deux petites notes que je voulais pour commencer. Alors ce soir, nous recevons, c'est pour montrer à quel point on est une radio ouverte, hein. Vous allez voir la surprise de votre vie. Nous recevons d'abord un citoyen allemand, ce qui est déjà exceptionnel, mais en plus, un député allemand au Parlement européen. Il faut dire qu'il avait un piston sérieux, parce qu'il a le piston du bon Dieu. C'est Monsieur Joachim Vermeling, qui fait partie, entre autres, mais on va pas parler de ça très très longtemps, mais on va quand même vous en parler quelques minutes, qui fait partie d'un lobby, on peut dire, c'est ça, d'une commission, d'un lobby, voilà, disons le mot, qui veut absolument que la dimension spirituelle se figure dans la Constitution, dans la Charte européenne, et qui donc demande que le fait que Dieu a quelque chose à voir avec notre existence sur Terre soit mentionné dans ces documents officiels. Alors on le recevra tout à l'heure, et j'ai eu l'idée de le mettre en présence de Pierre Hillard, qui a une conception légèrement différente de l'Europe de la sienne, mais comme ça il pourra en parler. Comme ça, pour une fois, on me dira pas que je suis que je fais du racisme anti-allemand. Et à vous non plus, mon cher Pierre, parce qu'on verra que vous êtes capable d'avoir un entretien suivi avec un cousin d'Outre-Rhin. Et nous recevrons également ce soir, comme d'habitude, j'allais dire, l'abbé Cellier, le père Argouarche, et puis exceptionnellement Michel Blanza, qui participera aussi sans doute à cet entretien entre monsieur Joachim Wermeling. Alors, je vous signale, parce qu'il va y avoir des questions, autant répondre tout de suite, que Joachim Wermeling est le neveu de Ginny Wermeling, de sinistre mémoire, quand même, hein, que nous connaissons beaucoup sur cette radio. Non, ça va, je suis pas fâché, Vinny. Bon, c'est bien, il est pas fâché, hein. Et puis, nous attendons, enfin, il est dans le studio technique, dans la cabine technique, Patrick Goffman, qui viendra nous parler du libre journal, parce qu'après tout, il en parle tellement mieux que moi, que je vois pas de raison de ne pas lui donner la parole. Victoria, allez-vous bien?
Très bien, merci.
Bien. Alors, ces politesses étant faites, je me tourne maintenant vers la première invitée de cette soirée, qui est Madame Nicole Ferrandis, et qui, pratiquement comme chaque année, vient nous... mais là, c'est exceptionnel, il y a vraiment une raison tout à fait particulière, vient nous tenir au courant des activités de l'association des amis...
Des familles
des victimes du 26 mars, c'est-à-dire du...
De la fusillade de la rue du Cire à Alger, le 26 mars 62. Mais vous avez raison de dire des amis, parce
oui,
que en fait
aussi.
C'est les familles, mais ce sont les amis aussi, bien évidemment, parce que nous n'avons pas, en fait, l'association ne s'occupe pas aussi que du 26 mars. Elle est très sensible au sort des disparus, de tous ceux qui ont été enlevés en 1962 pendant cette guerre d'Algérie et qui sont passés à la chape de béton, de silence. Personne ne parle de nos disparus. Personne ne parle du massacre du 5 juillet à Oran. Alors, bien évidemment, chaque année, nous faisons une cérémonie à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Et chaque année, monsieur de Becquet, vous voulez bien m'inviter et je vous en remercie pour annoncer cette cérémonie. Alors, elle est maintenue. Elle est donc ce 26 mars 2003 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay à 18h30. Donc, c'est pour toutes les victimes donc de la rue d'Isly et des Harkis. Et donc, comme je vous le disais, de tous nos disparus. Mais cette année...
Alors, répétez s'il vous plaît, la messe, c'est samedi...
C'est le mercredi 26 mars. Oui, c'est la date anniversaire, donc à 18h30 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. À ma place, Maubert Mutualité, mais enfin, je pense que vos auditeurs connaissent. Donc ça, c'est la cérémonie religieuse. Et cette année, bon, j'avoue que notre association, nous en avons eu tous un petit peu assez de cette année de l'Algérie. Tout le monde nous parle de l'année de l'Algérie, des conférences. Là, nous avons eu le voyage de monsieur Chirac en Algérie. Mais par contre, bon, des Français d'Algérie, on n'en parle pas. De notre drame, personne n'en parle. Ça n'émeut personne. Et donc, j'ai voulu organiser, eh bien, des conférences débat ce 26 mars. Et avec des historiens. J'ai invité monsieur Raphaël Delpart pour parler des disparus, monsieur Jean Mondret pour parler du massacre du 5 juillet 62 à Oran, et puis monsieur Dillinger pour parler du 26 mars. Et puis aussi mon au service de la France par le président donc des anciens policiers ça c'est une unité un petit peu particulière en 59 pour ramener un petit peu l'ordre à Paris parce qu'il y avait quand même beaucoup d'attentats commis par le FLN. Il y a des Français musulmans qui ont été nommés à Paris et intégrés dans la police. Et donc il y a eu beaucoup de policiers, donc de ces auxiliaires qui ont été assassinés par le FLN. Et donc c'est pour ça que je dis mort au service de la France, parce que lors de notre conférence de débat qui aura lieu sur un bateau mouche le 26 mars à 14h30. Cette association, ce président aura la parole pour parler de ce qui s'est passé ce jour-là. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que, eh bien, nous soyons nombreux. C'est-à-dire que les auditeurs viennent nombreux quand même à ces conférences. Parce que bon, il faut quand même bien dire que cette année de l'Algérie, donc, tout le monde en parle. Mais il faudrait bien que, nous aussi, en fait, nous nous mobilisions. C'est une possibilité. J'ai donc organisé une conférence, je viens de vous le dire, une exposition de photos sur l'après 19 mars, sur les conséquences
des accords d'Évian. Et quand on dit accord d'Évian, ben c'est donc on vient de le dire, le massacre de la rue d'Izy, cette sinistre fusillade, c'est les massacres, c'est les disparus, ce sont les harkis, puis c'est l'exode aussi, c'est tout ça. Et donc au travers de cet après-midi, donc du 26 mars sur ce bateau mouche du pont d'Alma, nous allons donc parler de tout ça. Et à la suite donc de ces conférences qui vont durer donc une partie de l'après-midi, il y aura quand même aussi une cérémonie sur ce bateau mouche. Donc le bateau mouche va prendre donc la scène, et puis nous allons nous rendre nous allons faire un tour de scène, mais nous allons nous rendre du côté certainement du monument aux déportés, et nous allons tout au long du parcours jeter des fleurs bleu blanc rouge. Et en souvenir de, nous sommes loin de notre Méditerranée, mais en souvenir de tous ceux qui sont tombés il y a 41 ans et qui aujourd'hui sont complètement passés dans l'oubliette de l'histoire. Alors c'est vraiment un appel là, que je lance à vos auditeurs, parce que c'est très important. Ce n'est pas rien que d'arrêter un bateau mouche, ce n'est pas rien de faire une exposition photo, ce n'est pas rien que de demander à des conférenciers de venir. Eh bien, ils sont là. Moi, mes amis ont répondu présents. Maintenant, je voudrais que les auditeurs, les Français d'Algérie, mais aussi les métropolitains qui sont fidèles à cette histoire de la France, viennent et pour répondre, nous sommes là, nous n'avons rien oublié. Et puis nous avons nous aussi quelque chose à dire. Alors donc, comment venir à cette conférence ? Eh bien, c'est tout simple, c'est gratuit d'abord, mais il faut simplement s'inscrire. Et pour s'inscrire, eh bien, il suffit simplement d'envoyer une enveloppe timbrée à l'association. Alors là, je vais donc donner le nom de l'association. Je vais peut-être deux fois.
Oui, et je vais l'écrire en même temps que vous allez le dire. Comme ça, vous allez voir à quel point c'est difficile et long d'écrire.
Alors, c'est à l'association des familles des victimes du 26 mars 1962. Et puis, pour faire plus court, on peut mettre AFV 26 mars. Le facteur comprend.
C'est formidable.
C'est formidable. Oui, j'ai un facteur intelligent.
AFV, Association des familles des victimes, 26 mars.
Boîte postale 27.
BP 27.
95 321.
Saint-Leu.
La Forêt. CEDEX. Alors, il suffit simplement de m'envoyer une enveloppe timbrée. Et avec donc libellé au nom et à l'adresse de la personne qui désire se rendre à la conférence. Et moi, je leur envoie un petit ticket d'embarquement avec le programme. C'est tout simple. Maintenant, il y a un numéro de téléphone pour se renseigner. C'est le 01 45 74 09 91. Je veux dire que c'est vrai que c'est très très important, parce que j'ai un petit peu regardé moi le programme de l'année de l'Algérie en France, et j'ai écrit à plusieurs reprises à Monsieur Bourges, à Madame Allaire, Madame Allaire qui est le haut commissaire. Et il y a une pièce qui m'a particulièrement heurtée, c'est Mémoires à la dérive, qui se joue. Pour vos auditeurs qui habitent du côté de Malakoff, elle se joue du 25 au 29 mars, c'est bientôt. Et elle est particulièrement insultante pour nous. Pour nous, quand je dis pour nous, c'est pas spécialement les Français d'Algérie, c'est pour les militaires français, c'est pour la France en général. Je vous cite simplement un petit peu le canevas de cette pièce de théâtre. Alors quand je vous dis que ça se joue à Malakoff, c'est pas pour y aller bien sûr et pour applaudir, hein, c'est pour aller la siffler bien évidemment. Par exemple, donc cette pièce, c'est le personnage central de cette pièce, c'est frappé d'amnésie et va voir un psychiatre. Et le psychiatre fait revivre, disons, le père de ce personnage qui a perdu la mémoire. Et ce père, lui, donc, a été maquisard pendant la guerre d'Algérie. Et ce père, lui, va faire apparaître à nouveau sur le tortionnaire, le militaire français qui l'a torturé pendant la guerre d'Algérie. Voilà, donc c'est cette année d'Algérie, c'est en fait que ça. On nous avait dit que ça serait une année culturelle. Ce n'est pas une année culturelle, c'est une année insultante pour tout le monde, pour nous, Français d'Algérie, pour les Français de métropole. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, moi, faire ces conférences débats. C'est ma réplique, et je demande vraiment, vraiment à tous vos auditeurs de répondre présent.
Merci Nicole Fernandez. Alors je rappelle, mercredi 26 mars, une série de conférences suivie d'une manifestation non pas dans la rue, mais sur la Seine, à bord d'un des bateaux du pont de l'Alma, pour recevoir une invitation à ces conférences et à cette manifestation sur la Seine. Vous envoyez une enveloppe timbrée à AFV, Association des familles de victimes du 26 mars, AFV 26 mars, boîte postale 27, 95 321 Saint-Leu-la-Forêt-Cédex, ou vous téléphonez pour avoir plus d'informations au 01 45 74 09 91.
Voilà, je vous remercie. Et puis donc, bien sûr, la messe à Saint-Nicolas, traditionnellement, à 18h30. Et je vous remercie beaucoup.
Je fais remarquer au passage qu'il y a une année de l'Algérie en France, mais il n'y a pas d'année de la France en Algérie. La question a été posée, et les Algériens ont dit non, ça ne nous intéresse pas. C'est curieux, quand même.
Je voulais simplement, excusez-moi, dire que nous ferons entendre, j'espère qu'elle sera assez forte, la sonnerie aux morts sur la Seine. C'est prévu avec roulement de tambour. Eh bien, les gens qui passeront se demanderont peut-être pourquoi. Merci beaucoup.
Merci, Madame Ferlis. Bien, alors maintenant, je me tourne vers Joachim Wermeling. Joachim Wermeling, vous êtes donc député européen ou député allemand au Parlement européen. Et j'ai dit que vous étiez chargé plus spécialement, enfin, entre autres, vous aviez une responsabilité dans le groupe parlementaire qui... veut intégrer la dimension spirituelle de l'Europe à la charte. Vous pouvez me dire comment ça se passe, comment ça fonctionne, ce genre de lobbying, comme on dit maintenant. Je dispense l'habituel polygraphe correcteur de français de m'envoyer le message obligatoire. Je sais qu'on n'emploie pas de mots anglais au micro, mais voilà.
Voilà, bonsoir à votre... Écouteur, je suis très heureux d'avoir la possibilité d'expliquer un petit peu ce que nous faisons dans cette convention. C'est effectivement, c'est pas la charte des droits fondamentaux parce que ça s'est déjà approuvé il y a deux années. Mais maintenant, nous sommes en train d'écrire une constitution pour l'Europe. Et à cet égard, les têtes des États ont convenu. Un enceinte assez nouveau, c'est la Convention européenne qui consiste des membres parlementaires des pays mêmes, mais aussi des parlementaires européens. Donc là, nous sommes, c'est présidé par Monsieur Giscard d'Estaing, cette enceinte est assez hétérogène. Donc c'est une centaine de personnes, on se retrouve à Bruxelles et on se connaît pas trop, hein. Donc on s'est débattu un petit peu, on a trouvé, bon, il y a des gens qui ont des mêmes intérêts, des mêmes pensées, et on s'est regroupé en premier lieu en parti politique là. Mais il y a aussi des intérêts, des idées qui ne sont pas un monopole d'un parti particulier. Et là, on a trouvé 20 personnes qui ont dit, bon, si nous faisons une constitution pour l'Europe, c'est autre chose que des traités internationaux, c'est pas seulement quelque chose de technique, c'est quelque chose qui doit aller plus loin. Et là, nous avons pensé que il faut bien mettre quelque chose spirituel, religieux dans la constitution parce que c'est un fait dans la vie et une constitution doit adresser les citoyens dans ses pensées et ses valeurs différentes et pour nous c'est aussi la dimension religieuse. Voilà, nous avons
Pardon, est-ce qu'il s'agit du Dieu des chrétiens, du Dieu des juifs, d'Allah,
ça c'est déjà quelque chose très difficile.
De l'univers,
c'est déjà quelque chose très difficile parce que nous avons pour l'instant je pense 13 millions musulmans en Europe qui sont tous des clients de Air France effectivement.
Comme et du Libre Journal bientôt, j'espère.
Oui. Nous ne pouvons pas être trop stricts là, donc nous avons pensé à une formule qui est assez tolérante aussi aux autres gens. Et c'est même le cas que dans les quartiers musulmans, mais aussi les quartiers juifs, les quartiers orthodoxes, la foi dans la politique est encore plus fort que chez nous. Donc, ils veulent aussi se être adressés. Donc là, c'est pas seulement le Dieu chrétien, Dans cette phrase, mais il y a d'autres phrases, l'héritage religieux, spirituel, ça c'est plutôt chrétien, parce que, bon, ça c'est la vérité historique.
C'est quand même plus ouais. La vérité que Allah, par exemple.
Tout à fait.
Dans la construction de l'Europe, Allah joue un rôle mineur, il faut bien reconnaître,
tout à fait.
Pour l'instant.
Tout à fait. Tout à fait.
Ça va peut-être changer dans
tout
les années
fait.
À venir. Votan aussi, peut-être, non, je ne sais pas, enfin bon.
Ouais.
Ok, donc en fait, il s'agit de...
Pour moi, je viens de Bayreuth, hein, donc là, c'est autre chose.
Plus,
très particulier, ah, je ne peux pas m'opposer.
Vous ne pouvez pas, c'est sûr. Mais en fait, c'est la concrétisation de ce que l'abbé de Nantes appelait le Masdu. C'est le mouvement, alors là, ça serait le Masdé, parce que le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie européenne. Hein, l'abbé de Nantes disait de la démocratie universelle, mais là, on est en Europe. Donc c'est une espèce de saupoudrage spiritualiste de l'idée européenne. Oui, saupoudrage, c'est un mot...
Ah voilà, bon, oui, bien sûr. Si c'était moi qui aurais la possibilité d'écrire moi-même les formules pour la Constitution, je le ferais complètement différent. Mais... comme c'est un sujet qui est assez critiqué par l'autre côté, hein, des gens qui disent bon, nous sommes une communauté laïque, il ne faut pas mentionner des choses complètement privées, etc., etc. Et nous allons essayer de trouver quelque chose qui est acceptable pour un consensus. Hein. Et là, il fallait une tolérance. On peut dire exagéré, mais si on aurait proposé une formule qui était trop étroite, c'était...
Oui, c'était rejeté immédiatement.
Rejeté.
Est-ce qu'il y a des Français qui font partie de votre groupe?
Ça, c'est très intéressant Nous avons discuté ça dans notre groupe, de Parti Populaire Européen. Et là, on a eu des discussions difficiles, mais nous avons trouvé un compromis aussi avec les Français. C'est par exemple M. Turban qui était d'accord, c'est M. Lesquillier qui est d'accord. Ils ne sont pas souscrits le papier, mais ils acceptent.
Donc il n'y a aucun Français qui a signé pour l'instant
Non, pas vraiment. Mais notre collègue là disent, bon, c'est quelque chose qui est important, pas seulement pour les Allemands, aussi pour les Polonais, pour les Irlandais, pour autres.
Oui, hein? Monsieur Toumont, vous pouvez vraiment compter sur lui, parce qu'en France, chaque fois qu'il a dit quelque chose, il a fait exactement le contraire dans les 6 mois qui ont suivi. Donc, vous avez un allié. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais enfin, je vous donne opinion.
Vous avez
un allié fidèle et solide.
Nous avons trouvé ce compromis il y a 6 mois, et je l'ai vu la semaine dernière. Il est toujours dans le...
Les 6 mois ne sont pas écoulés. Et alors, il y a une... Bon, on a compris, je crois que c'est... On voit bien où va cette opération. C'est pas antipathique, d'ailleurs, il faut bien reconnaître, de vouloir donner une dimension spirituelle à cette opération. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien que c'est toujours dans le flou européen. C'est toujours un dieu comme ça, une espèce d'architecte ou de grand menuisier,
oui,
parce que l'architecte, c'est franc-maçon. Alors donc, oui, Vinnie Vermeling, il veut parler, il peut pas résister. Alors Vinnie Vermeling.
Je suis quand même un petit peu déçu, parce que si je comprends bien, en Europe, on est 80% de chrétiens et c'est les 20% qui nous roulent dessus. Alors je cite simplement la Constitution d'Irlande, au nom de la très sainte Trinité, dont dérive toute puissance et à qui il faut rapporter comme à notre but suprême toutes les actions des hommes et des États. En Grèce, c'est exactement pareil. Ça continue en Pologne. Même les Allemands, ils disent devant Dieu, conscients de sa responsabilité devant Dieu. Et maintenant, on s'écrase parce que M. Giscard d'Estaing, il pense qu'on est un club laïque. Il ne faut surtout pas devenir un club de chrétiens. Mais on est un club chrétien.
Oui, mais c'est pas lui. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi M. Attali.
Enfin, on devrait pas être un club chrétien. En France, on a, je ne sais pas, combien des membres de l'Église catholique. Hein, je ne sais pas combien. C'est 80%. Je ne sais pas, hein? Mais les Français sont contre. Hein? Donc là, on n'a pas vraiment l'argument, parce que c'est pas seulement la question d'être chrétien ou pas chrétien, mais c'est aussi la question, s'il veut, sans parler dans la Constitution. Donc là, il faut être assez ouvert pour faire accepter.
Effectivement, ce sont les députés, les parlementaires français qui font obstacle.
Il y en a beaucoup. Il y a par exemple M. Duhamel qui est contre. Et il y a aussi Michel Barnier qui est contre, malheureusement, même s'il fait aussi partie de la PPE.
C'est intéressant de savoir qui est contre, parce que ça permet de resituer leur discours, enfin, de bien marquer la différence entre le discours en France et le discours en dehors de nos frontières. C'est-à-dire qu'en France, quelqu'un comme Barnier se présente volontiers comme un chrétien.
Oui, mais il a écrit un article dans le Financial Times lundi, je pense que c'était lundi cette semaine. Qui a dit, bon, c'est pas nécessaire de mentionner Dieu.
C'est justement parce que je suis chrétien, dit-il, je peux dire ça. Ouais. C'est comme, c'est le vieux truc, hein, des ministres qui disent, à titre personnel, je suis contre l'avortement, mais en tant que ministre, bien entendu, je suis obligé de tout faire pour que tout le monde puisse avorter, y compris 5 mois après la naissance. Voilà, bon, ben, c'est toujours sympa. Moi, ça me confirme dans cette espèce de passion que j'ai admirative pour la démocratie en général, et les parlementaires en particulier, sauf vous, bien entendu.
Bon, mais ce qui n'est pas bien, estimé, c'est que notre formule est un essai, de trouver une formule nouveau, dans un environnement différent des environnements que nous avons eus quand ces anciennes constitutions ont été faites, de trouver une solution de mentionner Dieu d'une façon tolérante, sans mettre en cause laïcité, hein. Et là, quelques de notre partenaires dans la convention, ils réagissent assez spontanément, Dieu dans la Constitution, non, hein, sans vraiment essayer de et regarder les formules, etc., etc. Donc là, je pense, il faut aussi en France être un peu plus sérieux, hein, et de pas faire des batailles anciennes qui sont déjà réglées. Hein.
Michel Blanza.
Oui, voilà. Je trouve ça très, très intéressant. C'est certainement une idée positive de votre part. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans les... Par exemple, il va se produire à Paris le 20 de ce mois-ci, l'arrivée de Monsieur Metreya. Metreya, c'est un mélange de...
Vous dites Monsieur Metreya. Metreya, c'est une espèce d'illuminé. Enfin, d'illuminé. C'est un gourou, c'est le nouveau
gourou. Un gourou qui prétend être en même temps un messie, le messie de tous les messies, absolument.
Super messie.
Le nouveau Bouddha.
Super Bouddha.
Et puis bien d'autres choses aussi. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'hindouisme, c'est des plus ou moins chamans. Il draine derrière lui des millions de personnes. Exactement comme Moon, de son côté, draine des millions de personnes. Et ces gens-là préparent une des choses les plus vilaines, à mon avis. C'est une sorte de syncrétisme, c'est-à-dire un mélange, une confusion d'absolument tout. Et qui sera évidemment une manière d'en finir, si on peut dire, avec ce qui reste d'idées saines. Parce qu'à partir de là, il n'y a plus la moindre possibilité pour que les choses apparaissent pour ce qu'elles sont. Elles seront noyées dans un mélange.
Il y a un confusionnisme qui est
possible. Le syncrétisme est quelque chose qui est organisé, qui est 90% des sectes viennent des États-Unis d'Amérique, elles sont fabriquées là-bas. Monsieur Metreya, que j'appelle Monsieur Metreya
je trouve désobligeant.
Voilà.
Sa béatitude, votre sérénité.
Exactement. Il arrive à fédérer tellement de monde derrière lui, c'est comme beaucoup de ces gens qui sont fabriqués aux États-Unis, qui sont avec des services spéciaux. Moon, par exemple, c'est les services secrets coréens fabriqués par la CIA. C'est toutes ces choses. C'est des choses. Les questions de religion, malheureusement, sont reliées à des tas de choses.
Mais vous avez fait un article, Michel, extrêmement intéressant dans le Libre Journal de cette
Libre Journal, absolument, parce que ça me paraît être une chose fondamentale.
Sur la manipulation des. du mondialisme par les sectes et pas seulement par les sectes, y compris la secte conciliaire.
Il y a eu un grand auteur qui s'est occupé de ça il y a quelques années, oublié maintenant, c'est Yann Moncomble, oui, qui avait prévenu largement sur la manière dont le mondialisme était orchestré, justement par ces églises d'unification chrétienne et toutes ces choses étranges.
Alors, il y a une autre activité que vous avez au sein du Parlement européen, Monsieur Vermeuling, c'est vous vous occupez spécialement, j'ai cru comprendre, de l'intégration des nouveaux pays européens à l'Est.
Tout à fait, absolument. Parce que je viens d'une région qui est à la frontière avec la République tchèque. Hein. Et donc là, on voit les choses un peu différemment
C'est la région des Sudètes, non?
Ça aussi. Bon, vous connaissez très bien les problèmes là. À Bruxelles, à Strasbourg, peut-être aussi à Paris, on ne réalise peut-être pas trop quels seront les problèmes de cet élargissement. Ce sont des pays un peu en cours de développement. Ils ont une histoire complètement différente de la nôtre. Ils n'ont pas de confiance à l'État. Ils ont aussi d'autres loyalités, hein. Vous avez vu ça avec la crise irakienne et tout ça. Bon, là nous avons vraiment un défi pour l'Europe qui n'est pas trop reconnu. On trouve cet élargissement, c'est un peu la routine, l'élargissement, mais c'est un défi tout à fait différent. Et je pense qu'il faut des activités de nous tous pour vraiment inclure les gens là, et ça va jusqu'à la Roumanie, dans notre esprit européen.
Alors, il y a une question qui se pose, mais je pense que Pierre Hillard, qui est spécialiste de ces sujets, va vous interroger là-dessus. C'est celle de l'intention première, la motivation de la vieille Europe, comme dirait l'autre, pour faire entrer ces pays qui sont européens comme ci, comme ça. Alors, bon, ils étaient dans l'ancienne Europe pour ce qui est de l'Europe centrale, bien entendu. Mais enfin, on voit bien qu'il y a une tentative d'aller beaucoup plus loin, ou une tentation d'aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, il y a là une carte qui est intitulée, j'ai sous les yeux donc une carte, une image qui est éditée par le Conseil de l'Europe, ce qui est autre chose, mais qui montre les principes directeurs pour le développement territorial durable du continent européen. Et comme vous pouvez le voir, selon ces braves gens, le continent européen commence à Malaga et finit à Vladivostok. Donc c'est quand même un petit peu extensif comme Europe.
Alors, oui, c'est une carte que j'ai trouvée récemment.
C'est une carte que Pierre Hillard a trouvée. Et la première question que je voudrais vous poser, puis après je donnerai la parole à Pierre Hillard, et naturellement elle intègre la Turquie, ça va sans dire. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas soupçonner l'Allemagne de vouloir en quelque soupçonner. On ne peut pas penser que l'Allemagne, en appuyant l'extension de l'Europe vers le Drang Naroston, en fait, éternel, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a une volonté de déplacer le centre de gravitation de l'Europe et d'acquérir de ce fait, par la situation centrale de l'Allemagne, une plus grande force, et une plus grande force diplomatique, une plus grande force politique, économique, dans le contrôle de l'Europe?
Premier, je pense qu'il est assez normal qu'un pays qui a une frontière extérieure de l'Union est intéressé à faire ses voisins venir. Hein. Ça, c'était le cas dans tous les élargissements. C'était le cas avec la France et l'Espagne et le Portugal. C'était le cas avec les pays du Nord. Donc, là, je pense ça tout à fait normal. En ce qui concerne les relations entre l'Allemagne et ces pays-là, je pense que la force de notre relation avec ces pays est exagérée. C'est pas vraiment le cas. Nous avons beaucoup de problèmes avec ces pays-là. Ils ne veulent pas être des combattants naturels des Allemands. Vous avez même mentionné le problème des Sudetendeutsche. Il y a beaucoup de problèmes comme ça qui vient de l'histoire, qui ne sont pas résolus. Nous avons les problèmes avec la Pologne. Il existe aussi des problèmes entre l'Allemagne de l'Est et ces pays-là. Parce que l'Allemagne de l'Est, pendant les temps communistes, était le plus fort.
C'était le chien de garde de l'Union
soviétique. Oui, c'est ça. Et donc, les liaisons ne sont pas toujours très bien. Donc, là, je pense...
Pardon, là, il y a quand même une solution qui est déjà en cours, enfin, un moyen de régler ce problème et qui est déjà en train d'être en cours de réalisation, c'est la landérisation, c'est la morcellisation de cette Europe. Parce qu'il est évident que si l'Allemagne, en tant que Allemagne entière, peut avoir des problèmes relationnels avec la Tchécoslovaquie ou avec la Tchéquie, le Land de Bavière n'aura pas beaucoup de problèmes avec le Land des Sudètes.
Le problème est le contraire, parce que les relations sont toujours si tendues que c'est très difficile, parce que nous avons essayé de faire des régions européennes à cette frontière là, mais Prague a fait beaucoup de difficultés parce qu'ils ont dit nous ne voulons pas ça, parce que c'est la République tchèque et ça reste comme ça. Votre idée, est-ce que ça bouge pas le centre de gravité européen? Si on peut vous permettre une pensée stratégique qui n'est plus la réalité en Europe.
Archaïque.
Hein? Archaïque, même archaïque, je ne sais pas si c'est le vocabulaire très bien, mais le centre de gravité en Europe, c'est le Parlement européen, et là, il y a les sièges, et c'est là où se fait la politique. Et c'est le Conseil des ministres où tous les gens sont autour de la table. C'est plutôt, c'est pas plus les relations bilatéraux, les relations préférées, etc. etc. C'est des instruments et des mécanismes de faire des décisions en Europe complètement différents, et la réalité à la communauté européenne est que selon un sujet il y a les Polonais qui sont ceux qui vont être avec les Espagnols parce qu'ils vont avoir des fonds régionaux de l'Europe. Le prochain sujet c'est plutôt politique. Il y a le sujet pour les questions religieuses, là il y a peut-être une combinaison des Tchèques avec les Français contre les Allemands et les Polonais. Donc là, la situation en Europe a complètement changé, et on va voir voit ça, oui, très fortement dans la crise irakienne.
On imagine bien que tout ça se négocie, c'est-à-dire que quand s'il y a un axe, par exemple, je ne sais pas, Prague-Berlin, qui s'oppose à un axe Madrid-Varsovie, oui, par exemple. Bon, dans un cas, vous avez Berlin qui pèse quand même beaucoup plus lourd que Prague, Madrid qui pèse encore beaucoup plus lourd que Varsovie, et on va dire à ces gens-là, écoutez, si vous voulez obtenir ce que vous voulez, par exemple, en ce qui concerne le financement régional, il faudra faire preuve d'un peu plus de compréhension en ce qui concerne une autre disposition sur laquelle vous êtes plus réticent. Je vais caricaturer, mais de dire, si vous voulez avoir de l'argent pour vos régions, il va falloir appuyer l'opposition française à l'adoption d'un parrainage spirituel de l'Europe. Voilà.
C'est peut-être aller avec dans une Union européenne avec 6 membres, hein, parce qu'on est dans une table et on peut dire, bon, tu me donnes ça, je te donne ça, mais dans une Union européenne avec 30 membres, ça va pas, ça va plus.
Mais par exemple, vous qui êtes un spécialiste de ces questions, comment expliquez-vous que les Américains soient arrivés à marauder, à voler, à extorquer des signatures sur un texte comme ça a été fait, ce qui a provoqué la colère de Chirac en France. Comment ça s'explique? Comment ça s'est passé techniquement, ça?
Bon, techniquement, c'était, je pense, un peu l'histoire de ça était un peu mal compris. C'était l'idée d'un correspondant de Washington Post, je pense, à Bruxelles, de publier un article.
Le Wall Street Journal.
Vous avez raison. Wall Street Journal, de faire un article combattants des États-Unis. Hein. Donc, on a demandé à M. Blair et M. Aznar, et c'était tout. Et ensuite, on a l'idée, peut-être, on demande aussi à quelqu'un d'autre, etc. Et donc, c'est développé, il y avait une dynamique. Et enfin, c'était seulement un article, hein, c'était pas une résolution, c'était pas quelque chose de diplomatique, c'était un article, mais cet article a donné l'impression que l'Europe est partagée sur ces sujets-là. Mais ça nous montrait aussi que l'esprit européen, hein, n'est pas très très fort dans ces pays de l'Est. C'est pas encore très fort. Ce sont les États-Unis qui ont fait qu'ils sont dans l'OTAN maintenant, ce que donne à ces peuples-là la sécurité en ce qui concerne les Russes. Hein. Donc là, il y a aussi une loyauté très très forte, et ce qui est peut-être un peu, pour le moment, pour l'instant, plus fort que la loyauté vers l'Europe.
Pardonnez-moi, mais j'ai pas l'impression que c'est très sérieux de prétendre que l'OTAN conférerait une espèce de... continuerait à être un bouclier anti-russe. Non. Pour les pays de l'ancien bloc, c'est...
Non, la réalité est complètement différente, mais la perception est que l'OTAN fait qu'ils sont sûrs de ne pas être repris par la sphère russienne. Moi, j'étais par exemple en Estonie, et vous voyez, les gens là ont vécu pendant des centaines, dizaines des années sous un régime soviétique communiste, et la libération, c'est quelque chose qui est très très fort dans leurs sentiments, dans leur pensée politique, et la libération est directement liée aux forces américaines dans leurs esprits. Hein. C'est la réalité aujourd'hui, c'est différent. Mais ça nous montre un petit peu le problème.
Pierre Hillard, vous avez une...
Oui, avec l'affaire irakienne, l'OTAN connaît une mauvaise passe. Il y a quand même une chose qu'il faut rappeler, c'est au tout début des années 90, en 91 je crois même, c'était 91 ou 92, James Baker, qui était le secrétaire d'État, enfin le ça correspond au ministre des Affaires étrangères de George Bush père, qui avait dit que l'extension de l'OTAN devait aller jusqu'à Vladivostok. Et ces propos ont été repris et confirmés peu de temps après l'attentat du 11 septembre par Elizabeth Jones, qui est la conseillère de Bush fils pour les affaires euro-asiatiques. Donc finalement, l'extension à l'est de l'OTAN correspond finalement à l'extension, à l'élargissement, ça va de pair. Et j'ai eu l'occasion d'évoquer une fois à Radio Courtoisie un journal allemand qui s'appelle le Financial Times Deutschland, je vous donne la référence, le 24 octobre 2002, où vous avez un émissaire américain anonyme qui a remis une feuille de route au gouvernement allemand, et qui a dit qu'en gros, il fallait que pour 2004, les pourparlers d'intégration de l'Ukraine à l'OTAN commencent, 2005 la Serbie, 2007 l'Albanie et la Croatie. Le gouvernement américain souhaiterait que la Turquie intègre l'Union européenne pour 2007, et il a ajouté pour 2010, le cadre euro-atlantique doit être réglé. Voilà, donc on se rend compte qu'il y a une mainmise américaine sur l'Europe, mainmise qui remonte déjà à 1945, et on peut même déjà dire, déjà suite à 1917, il y avait eu les prémices, mais je tiens à faire une remarque au sujet de cette extension à l'Est. Il y a une chose qu'il faut surtout avoir à l'esprit, et malheureusement j'ai pas apporté la carte avec moi, parce que j'ai complètement oublié, c'est l'élément clé, c'est la régionalisation. Vous avez une mise en place, fond, moi j'appelle ça une landérisation de l'Europe. Et après tout, la landérisation, la primauté donnée à la région, c'est un document européen, la recommandation 34/1997 du rapporteur allemand Peter Rabe. C'est en 1996 que le premier projet de régionalisation de l'Europe a été présenté par le gouvernement du Land de Basse-Saxe, et à l'époque, son ministre-président s'appelait Gerhard Schröder. Et ce que va faire Jean-Pierre Raffarin lundi prochain à Versailles avec la réunion du Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat, c'est l'exacte application de ce projet de charte de l'autonomie régionale qui a été donc élaboré par Peter Haber, entre autres, mais c'est quand même lui le rapporteur, qui va donc permettre l'émancipation politique des régions française. En gros, et le principe de la région n'est pas une mauvaise chose. La France a connu des provinces à l'époque de l'Ancien Régime, mais l'élément clé, et c'est un phénomène qui va donc toucher la France, mais qui va toucher aussi tous les pays d'Europe, et en particulier des pays d'Europe centrale, c'est que la région ne va plus dépendre du pouvoir central, pour la France de Paris, enfin plus exactement des préfets, mais de l'autorité supranationale de Bruxelles. Et c'est l'exemple, depuis le 1er janvier 2003, de l'Alsace, pour la gestion des fonds structurels, puisque désormais, la représentation régionale d'Alsace traite directement avec Bruxelles. Donc, peu à peu, d'une manière progressive, il faut bien se dire que c'est par étapes, peu à peu, la région s'émancipe de l'autorité nationale pour se rattacher à une autorité supranationale qui est Bruxelles. Et je dis toujours, en réalité, c'est une étape intermédiaire vers l'État mondial. La charte de l'autonomie locale, qui est un document allemand, c'est un compatriote à vous, qui s'appelle Monsieur Galette, mais un nom bien français, peut-être d'origine huguenote.
Et la France n'a pas ratifié, n'est-ce pas?
La France l'a ratifié, ce document. Si. La France a ratifié la charte d'autonomie locale.
Locale, mais pas régionale.
Ah, régionale, non. D'ailleurs, c'est même pas... c'est encore projet de charte d'autonomie régionale. En réalité, le projet a été remis à 2004, en fond, avec la Constitution européenne. Et il faut bien se dire que finalement, on va assister progressivement à une Zersplitterung, un émiettement, un éclatement de l'Europe en région politiquement autonome et se dégageant de l'autorité du pays. Les provinces polonaises vont se dégager de l'autorité de Varsovie, les provinces tchèques de l'autorité de Prague et au profit de Bruxelles. C'est ça l'élément clé. Et c'est pareil avec la Russie. Si la Russie un jour intègre l'Union européenne, j'avais avec moi une carte de l'Europe des régions qui était élaborée par l'ARE, l'Assemblée des régions d'Europe, qui est toute récente, qui montre la régionalisation de l'Europe, Turquie comprise, une Turquie qui est régionalisée en 70 régions. Et bon, tout ça, ça va vous savez, c'est le principe divisé pour mieux régner. Une Europe éclatée, déjà l'Allemagne a un bénéfice, un atout, il y a une unité culturelle germanique que la France ne connaît pas. La France est une construction politique. C'est toute la différence entre la construction politique française et l'unité germanique. Là aussi, si j'avais su que vous veniez, je vous aurais apporté un document du Parlement européen que Serge Beckett avait publié dans le Libre Journal il y a plusieurs mois, d'une Europe dessinée en fonction des critères ethniques. La France est éclatée, l'Occitanie, Bretagne, etc. La Grande-Bretagne aussi, sauf l'Allemagne qui forme un bloc. Allemagne, Autriche, Tirol du Sud, Suisse alémanique, Alsace, Pays Messin, Luxembourg.
Centre-Empire romain germanique.
Disons que c'est simplement un fait historique. Il y a une communion de pensée germanique culturelle.
Vous voulez répondre à
oui, oui, tout à fait. Bon, moi, je suis de la Bavière, donc là, c'est un sujet assez intéressant pour moi. Je dirais, bon, en ce qui concerne les relations avec de la Bavière à l'État, nous avons toujours le sentiment que c'est toujours Berlin qui nous règne. Et tant pis, hein, et je pense que disons l'Allemagne de vue de l'extérieur agit comme une entité, hein, notre constitution dit clairement ce que la responsabilité des lenders, ce qui n'est pas la responsabilité des lenders. Bon, c'est ce que nous faisons à Bruxelles. C'est seulement de négocier avec la Commission les détails des programmes régionaux, etc., etc. Bon, si nous avons des intérêts particuliers, nous pouvons nous adresser à la Commission, faire des entretiens avec les commissaires. Ce sont aussi les parlementaires bavarois qui se battent pour ces trucs dans le Parlement européen. Mais, donc là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment danger pour l'État.
Vous voulez dire que le statut de la Bavière est différent du statut de l'Alsace en ce qui concerne...
Bon, ça, je sais pas.
En ce qui concerne les relations avec le pouvoir central et les relations avec Bruxelles, parce que l'Alsace, comme Pierre Hilard le disait, peut maintenant négocier, notamment sur le plan des financements, directement avec Bruxelles, sans passer par Paris. Est-ce que la Bavière peut faire la même chose, négocier avec Bruxelles sans passer par Berlin?
Mais c'est seulement pour gérer ces programmes structurels, hein, parce que les fonds structurels, c'est pas quelque chose de très important, parce que ça serait vraiment un circonvention,
un
détour de le faire par Berlin, parce que ce sont des centaines de pages qu'il faut présenter à Bruxelles et négocier. Est-ce que la Commission accepte que ce projet sera mené ou pas? C'est plus facile de le faire directement, hein, parce que quelqu'un dans un ministère à Berlin n'en sait rien, hein, donc il n'est pas vraiment capable de trouver des solutions claires. Donc là, mais c'est seulement une toute petite espèce de tout le monde administratif.
Pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi, on a bien l'impression que ça n'est qu'un début. Continuons le combat. C'est un peu une fissure dans laquelle on va rentrer un coin qu'on va arroser et ça va faire éclater le système.
C'est vraiment
Parce qu'à partir du moment où...
Quels pourraient être les autres sujets? Pour les fonds structurels, ça va être très, très intéressant parce que comme il y a des contraintes financières, nous allons pas avoir des fonds structurels à l'avenir. Hein. Donc là, ces relations vont être coupées par le fait que la Bavière ne va plus bénéficier de ces fonds-là. Et je vois pas vraiment d'autres matières.
C'est un land de riches, la Bavière. C'est quand même avec le Bade-Wurtemberg, ce sont des...
Oui, mais moi, je viens d'une région avec un chômage de 12%. C'est ce petit coin qui avait la frontière avec l'Allemagne l'Est et aussi la République tchèque.
Et
donc, économiquement, c'était une catastrophe pendant ces années-là. Donc, nous sommes pas très dans une situation dans la situation de Munich.
Oui, je tiens quand même. Voyez-vous, on peut certes citer quelquefois des détails, mais il faut, pour pas noyer l'auditeur, citer un cas général, des cas, disons, ce qui se met en place, sauf évidemment un cataclysme, c'est une Europe avec une émancipation des régions, émancipation politique, des régions qui vont traiter directement avec Bruxelles, avec un caractère ethnique et linguistique. La Charte des langues régionales et la Convention cadre pour la protection des minorités mettent en valeur les caractéristiques ethno-régionales. Et finalement, j'ai montré dans mon livre que c'est un fait, c'est même pas un reproche, c'est un simple fait que tous les documents de la construction européenne, comme la Charte des langues régionales, c'est un document à l'origine allemand. Par le rôle en particulier de l'UFCE, la Föderalistische Union Europäischen Volksgruppen. Entre autres, j'ai pu montrer que le ministère de l'Intérieur allemand soutient une centaine de mouvements autonomistes en Europe.
Qui?
Le ministère Bundesministerium des Innern soutient à peu près une centaine de mouvements autonomistes en Europe.
J'ai jamais entendu ça.
Ah bien, j'ai mon livre.
Il faut lire le livre de...
Oui, je vous l'offrirai. J'ai la preuve, pensez bien que... Je continue, je vous laisse ensuite la parole. Le ministre sénateur allemand, par l'intermédiaire de l'UFCE, soutient une centaine de mouvements autonomistes en Europe. J'ai pu obtenir toute la liste des noms et des adresses de ces mouvements autonomistes, et le nom et l'adresse du haut fonctionnaire du ministre fonctionnaire du ministère de l'Intérieur allemand qui s'appelle Rolf Gossmann, qui est à la retraite maintenant. C'est plus lui. Je crois que c'est son remplaçant s'appelle Detlef Rein. Je crois que c'est lui maintenant. Enfin, peu importe, c'est un simple changement de nom, mais c'est un fait incontestable. C'est tout l'annexe 34 qui fait une dizaine de pages. J'ai laissé les références, vous pourrez vérifier. Parce qu'il faut bien comprendre que le concept politique français et le concept politique allemand sont des concepts complètement différents. Chez nous, en France, l'État a précédé la nation. Les rois de France ont fait la France. C'est une construction politique. Alors que, dans le cas de l'Allemagne, la nation allemande, avec ses diversités culturelles, attention, bavarois, saxon, rhénan, c'est pas la même chose, mais il y a un fond germanique, culturel, commun. L'Allemagne peut se passer d'État. D'ailleurs, elle s'est passée d'État de 1250 avec la mort de Friedrich de Dorenstaufen jusqu'à Bismarck. Il y a eu, certes, un empire germanique avec les Habsbourg, mais il n'y a pas eu le concept à la française, si je puis dire. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait la force de l'Allemagne. Elle peut, entre guillemets, se défaire d'une autorité étatique. Elle continue à perdurer. Alors que la France, on enlève l'autorité politique, tout saute. C'est ça qui fait la grande différence. Et donc, dans le cadre de la construction européenne, il faut bien comprendre que à partir du moment où on donne une préférence politique aux régions qui passent par-dessus l'autorité de l'État français en direction de Bruxelles, fatalement, il y a un éclatement du pays, inévitablement. Et cela s'ajoute au fait que, du fait de la coopération transfrontalière, les frontières d'État deviennent administratives grâce aux eurorégions. Et peut-être vous connaissez cette carte avec les eurorégions. D'ailleurs, c'est un institut européen qui fait ça, l'ARF, l'association des agronaos, qui ont été allemands à la base, puisque tous les fondateurs sont allemands. Et d'ailleurs, un de ses présidents, c'était un des proches de Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble. Et d'ailleurs, l'actuel président est un catalan. D'ailleurs, c'est révélateur, puisque les frontières d'État devenant frontières administratives, il est intéressant pour les Basques ou les Catalans d'avoir une frontière qui s'effiloche, enfin qui s'amollit d'une certaine manière, parce qu'il y a des possibilités de regroupement en fonction des groupes ethniques. Et c'est particulièrement vrai dans le cadre de la charte de l'autonomie régionale, qui dit bien que dans le cadre de l'interrégionalité, il y aura des possibilités de regroupement pour des raisons économiques, ethniques, de régions par-delà la frontière. La frontière politique n'est pas acceptée dans l'Allemagne.
Ça sera certainement le cas de la Catalogne.
Oui,
entre autres.
Bon. En ce qui concerne ces soutiens des minorités, bon, j'en avais jamais.
Je vous offrirai mon livre à la fin. Bien, je vous l'assure.
Une chose, je pense, est sûre, la Bavière n'était jamais financée par ces trucs-là.
Il faut leur demander. Alors, parce que là, vous êtes sur plein.
Et en ce qui concerne
la Bavière, joue un rôle avec Interreg.
Oui, bon, nous avons beaucoup de frontières et les euro-régions, c'est une chose très bien pour la compréhension entre les pays. Hein. Nous avons ça aussi chez moi avec les Tchèques, mais c'est oui. D'origine ethnique complètement différent. C'est la même chose dans les frontières avec la Pologne. Oui. C'est la même chose aussi
les Pays-Bas.
Oui, les Pays-Bas. Bon, peut-être c'est un peu pareil avec l'Autriche, hein, parce que là nous sommes plus proches des Autrichiens que des Hambourgeoises. Donc là, mais je pense que l'impression que l'Allemagne joue une carte régionale pour affaiblir les autres États, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Nous deux, et je sais très bien quels sont les motifs d'une certaine intention régionale à Bruxelles. Et c'est à cause des Länder. L'État fédéral a toujours dit, bon, ça se peut pas que les régions négocient avec Bruxelles autonome. Je me souviens bien quand nous avons installé un représentant de la Bavière à Bruxelles, c'était la guerre, hein, parce que la Auswärtiges Amt, le ministère pour les affaires étrangères, a protesté, a dit, c'est pas possible, c'est contre la Constitution, etc., etc. Donc, le gouvernement fédéral est poussé des régions même de nous, et c'est pas une stratégie derrière qui voulait.
Alors, je vais vous faire une proposition, monsieur Véronique. J'aimerais que Pierre Hilard va vous donner son livre qui va vous passionner, je suis certain. Et j'aimerais que vous le lisiez. si vous me permettez de vous donner, faire cette recommandation. Et puis, si vous avez l'occasion de revenir prochainement en France, vous revenez nous voir, et là vous aurez pris connaissance des arguments de Pierre Hilard, et j'aimerais bien qu'on en reparle, parce que c'est quand même assez central, c'est une question essentielle, c'est une clé de la construction de l'Europe.
Mais vous voyez, il y a aussi des autres régionalistes, maintenant nous avons un ministre pour les affaires européennes de Grande-Bretagne, qui est aussi ministre pour Wales.
Pays de Galles.
Bon, nous avons un statut autonome pour l'Écosse, nous avons aussi des régions en Italie, etc. Mais c'était pas à faire plaisir l'Allemagne, parce que c'est bien de faire ça, parce que les gens se trouvent mieux à la maison que si on a un État central qui fait tous d'un certain point.
Comprenez-moi. Effectivement, vous avez cité l'Écosse, Pays de Galles, les régions autonomes en Espagne aussi, et puis en Italie. Mais il faut bien comprendre que le principe de régionalisation qui anime les instances européennes, bon, c'est un principe qui remonte à longtemps, et l'Allemagne exporte, j'allais dire presque naturellement, sans se forcer, son modèle politique à l'Europe, avec évidemment parfois des difficultés. Ça se fait pas toujours. Il y a des problèmes, entre autres, avec la Bavière. Est-ce que vous citiez la représentation de Bavière à Bruxelles, le ministère des Affaires étrangères qui n'était pas d'accord? Ça m'a fait penser à la situation de la Bavière avant la guerre de 14, puisque Bismarck avait eu du mal à inclure la Bavière. Il lui avait accordé quelques privilèges, dont entre autres d'avoir une représentation diplomatique à l'étranger. L'État libre de Bavière, c'est pas pour rien. Mais il faut bien comprendre que...
Et avant, il a même payé.
Ah oui. Et bien d'autres choses.
Pour d'ailleurs construire un théâtre à Bayreuth pour Richard Wagner.
Oui. Bien, si vous permettez, je ne sais pas que je veux mettre un terme à cette conversation, mais d'autres invités se pressent. Donc je vous renouvelle cette proposition, M. Vermeling, de revenir et de redébattre avec... entre gens de bonne volonté, d'abord, vous êtes catholique, ce qui est déjà un excellent point, et bien que parlementaire européen, bon, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas être parfait, nobody is perfect, comme disait, c'est dans quel film merveilleux, 7 ans de réflexion, c'est ça? Non, Certains Lèmes Chauds, voilà. C'est la dernière phrase de Certains Lèmes Chauds. Et Pierre viendra donc débattre avec vous.
Volontiers.
Les auditeurs ont la parole pour quelques minutes.
Il vaut mieux... c'est d'ailleurs des auditeurs, parce que c'est les messieurs qui téléphonent. Il vaut mieux laisser l'Allemagne tirer l'Europe vers l'Est plutôt que de laisser la France déplacer l'Europe vers l'Algérie. J'ai beaucoup de sympathie pour M. Vermeling. Cependant, je ne comprends pas bien ce qu'il entend par consensus interreligieux au sujet du nom de Dieu dans la Constitution européenne. Pouvez-vous nous expliquer ?
Je crois que ça a été la première intervention il y a maintenant trois quarts d'heure. Je crois que c'était assez clair. C'est que la difficulté qui se présente...
Oui, c'est ça. C'est pas le dialogue interculturel. C'est un certain tolérance... des autres religions, des autres confessions, ce qui est un poids qu'il faut prendre dans une constitution
européenne. Ce qu'on appelle un blocage civilisationnel, c'est-à-dire que quand on parle de Dieu, on peut toujours mettre Dieu à la tête de la constitution européenne, mais on ne parle pas du même Dieu.
Donc si on traduit ça en arabe, ça se dit Allah.
Oui, mais eux ne seront pas d'accord.
Oui, bien sûr.
Eux, ils sont Allah et pas les autres, et nous, ça devrait être Dieu des chrétiens et pas les autres, les juifs, ça sera Jéhovah et pas les autres.
La différence, c'est quand même si c'est Jésus-Christ qui règne sur l'Europe, les autres vivraient très bien. Ce qui n'est pas le cas si c'est Mohamed ou si c'est un autre Dieu, n'est-ce pas?
Ça, c'est l'évidence même, mais il faudrait s'occuper d'en convaincre ceux justement qui considèrent que c'est Allah qui est le bon. C'est tout le problème.
Pensez-vous que la régionalisation peut aussi comporter des points positifs, et si oui, le résultat serait-il globalement positif ou négatif?
Ben là, je crois que...
Bon, en ce qui concerne la Bavière, je pense que nous étions un État libre si nous ne vivions pas dans un État fédéral, c'est ça? C'est ça, parce que
autosuffisant, c'est
ça. La Bavière, dans un État centralisé allemand, ça ne va pas.
Ça marche pas.
Donc non, vous êtes un séparatisme bavarois.
Oui, bon, comme je suis en France, je peux même dire, pour la Bavière, ça serait peut-être mieux d'être membre d'une Union européenne toute seule, parce que au moins ça donnerait beaucoup plus des gens la possibilité d'être membre au Parlement européen.
L'Allemagne n'a pas l'unité qu'on prétend, seule sa langue est commune dans des landeurs qui ont des statuts différents.
Bah, c'est exactement ce que dit Pierre.
Avec des variétés, mais il y a quand même un fond commun. Luther a fait unifier tout ça.
La France est chrétienne et on n'a pas à mélanger toutes les religions comme le laisse entendre votre invité.
Bien, on va peut-être.
Votre position et celle du front carrément anti-américaine fait plaisir aux musulmans de notre pays. Si le pape devait se rendre en Irak.
Qui est-ce qui a fait une proposition anti-américaine?
Tout ce que vous dites est anti-américain. Si le pape devait se rendre, soyons précis, si le pape devait se rendre en Irak, si cet événement devait se produire, les catholiques du monde entier feraient alliance avec le monde musulman pour assigner le gouvernement américain et les congénères de Rumsfeld devant la justice divine.
Intéressant ça, parce que c'est une étape vers le globalisme. Ouais, vers le...
Et c'est
le
aussi,
piège, justement.
Ouais. C'est aussi, ça donne aussi
une preuve
qu'il y a un sentiment religieux qui peut faire une unité. Hein. J'étais à Ankara la semaine dernière, hein, et j'ai parlé avec des représentants de la Turquie, et ils ont dit bon, les Turcs sont un pays qui aime la paix, hein, à cause de leur religion, hein. Et c'est aussi un base qui est...
Je pense que les Arméniens ont été contents de le savoir.
Oui, c'est pas toujours le cas, mais en Irlande du Nord, c'est aussi pas le cas pour les catholiques, non, là.
Il y a une chose quand même qu'il faudrait dire, c'est que bon, on entend souvent les dirigeants européens ou dirigeants de différents États parler de paix, de coopération entre les peuples. L'arrêté, c'est pas ça. C'est la loi du plus fort. C'est celui qui a la puissance économique, l'argent. En fond, l'histoire de l'humanité, c'est l'argent et le sexe. Quand vous enlevez ça, il reste plus grand chose. Non, mais c'est vrai.
Enfin.
Alors, les grandes coopérations pour une plus grande, pour la paix, pour l'amitié entre les peuples, ça, c'est Talleyrand qui disait, c'est bon pour agiter le peuple avant de s'en servir. C'est du blabla.
Mais le sentiment franco-allemand est différent.
Excusez-moi, Serge. Est-ce que je peux avoir 3 secondes pour prévenir vos invités et nos auditeurs de ce qu'ils vont entendre peut-être? Quelques départs de flash, ça fait pas beaucoup de bruit, et que nous avons besoin de photos de vous, et donc c'est vous qui êtes cadré uniquement.
Je comprends pas qu'on puisse avoir besoin de photos de moi, mais enfin.
Le Libre Journal en a besoin, donc on s'excuse auprès des auditeurs et des invités. Quelques départs de flash peut-être audibles.
Et même, on parle de l'amitié franco-allemande, non. Les relations entre États, ce sont uniquement des relations d'intérêt. S'il y a un intérêt pour tel ou tel domaine de s'allier à l'Allemagne, pourquoi pas? Mais les relations d'amitié n'existent pas. Ce sont des relations uniquement d'intérêt.
Oui, mais vous n'avez pas, vous avez jamais participé à une rencontre des jumelages où les gens se sentent vraiment se sentent très très proches. Hein. C'est l'amitié entre les gens qui
ça, c'est l'exemple typique des relations.
Moi,
des réunions. Ah mais qui existe, j'ai vu ça.
Tout à fait.
Mais des réunions où on fait parler le cœur, ça dégouline. C'est très romantique, mais un chef d'État, il voit les faits concrets, rapport de force, point. Le reste, il en faut presque des réunions, des jumelages pour décorer, pour des apparences.
Il vous manque une référence au Dieu dans la Constitution.
Ah non, mais le Dieu, lequel?
Merci, Joachim Vermeling. Donc, je vous ai invité à revenir pour débattre avec Pierre Hilard dès que vous aurez pris la peine de lire son livre, et je crois qu'il vous intéressera. Moi, il m'a intéressé en tout cas. Merci, Michel Blanzard.
Juste le 17 mars.
Voilà, je rappelle, le 17 mars, il y a lundi prochain, 17 mars, à Versailles, la réunion du Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat. Et je tiens à dire qu'il faut avoir l'œil là-dessus parce que ça va être le début de l'émancipation politique des régions, puisqu'il va y avoir la reconnaissance de la décentralisation de la Constitution, première étape à l'émancipation complète. Il faudra avoir l'œil à l'égard donc des députés et sénateurs qui vont voter contre cette modification de la Constitution qui va être le début de l'éclatement du pays. Et il faudra, je considère, citer leur nom pour leur rendre hommage. il faudra aussi avoir un œil particulier à l'égard des députés et sénateurs qui officiellement défendent la cause nationale avec des trémolos dans la voix à Radio Courtoisie ou bien dans des régions souverainistes,
par exemple,
et voir en particulier comment ils vont voter. S'ils votent contre, parfait, merveilleux. Mais s'ils votent pour,
M. Devilliers, par exemple, M. Hilaire,
je ne sais pas, mais s'ils votent pour ou bien s'ils s'abstiennent, il y a un terme pour ça, faux cul. Donc il ne faudra plus les entendre parce que.
On pourra les insulter avant.
Voilà. Je ne cite personne personnellement, mais simplement on va les voir. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout. Sinon,
un auditeur dit, pourrez-vous vous procurer la liste des députés européens qui sont contre l'idée de chrétienté, c'est un peu autre chose, contre l'idée de chrétienté dans la charte européenne, afin de les sanctionner aux prochaines élections, et également, on pourra en profiter pour donner la liste de ceux qui, ayant pris en France des positions souverainistes,
voilà.
Ou nationalistes, ou pseudo, auront voté pour la régionalisation.
Ou s'abstenus. Comme on dit, le cul entre deux chaises, d'ailleurs, zéro.
Merci Pierre Hilard, merci encore une fois Joachim Vermeling,
merci
Vinnie Vermeling. Décidément, cette famille est magnifique.
Que de... franco-allemand.
On finirait presque par aimer les Allemands, en fait.
Et vous connaissez pas tous.
Merci.
On vient d'écouter la prière de Desdemone par de Giuseppe Verdi, comme chacun sait, par Claudette Millot, qui est soprano, et qui a une voix que je trouve superbe parce que naturelle, parce que pas traficotée. Enfin, on sent, c'est pas une voix c'est pas une voix trop travaillée. Elle garde une espèce de fraîcheur, une espèce de naturel qui est vraiment agréable. Alors, si vous voulez vous procurer ce disque, il faudra attendre. Il faudra attendre 5 minutes que je retrouve l'adresse parce que naturellement, je ne l'ai pas prise. Mais je l'annoncerai tout à l'heure. Merci Franck. Donc, ce disque est un disque Kalima Productions, et pour le trouver, je ne vois pas d'autres références, CM98, mais je ne vois pas d'autre solution que de téléphoner à la production dont le numéro est le 01 34 93 40 00, 01 34 93 40 00, Claudette Millot, soprano, chant sacré, ça s'appelle.
Est-ce voilà. que je peux vous dire le numéro du Cri de la Chouette?
Pouvez-vous m'aider? Oui.
Envoyez le boîte postale 444 75327 Paris CEDEX 07. Et l'abonnement, c'est 16 euros seulement. Voilà.
Alors, je voudrais vous lire un texte que je trouve très amusant. C'est Roger Olindre qui a envoyé ce communiqué. Le Cercle National des Combattants, regroupant les soldats de toutes les guerres, dont de nombreux anciens des unités de contre-guérilla et d'antiterrorisme ayant fait leur preuve sur le terrain, est heureux de constater que grâce au plan Vigipirate renforcé mis en place par M. Sarkozy, les Français peuvent enfin dormir sur leurs deux oreilles. Certes, diront les grincheux, malgré notre collaboration avec toutes les instances internationales antiterroristes, nul n'a rattrapé le sieur Ben Laden volatilisé un beau matin, pas plus que le mollah Omar enfuit en mobylette. Mais au moment où le ministre de l'Intérieur se fait du souci au sujet des lieux de culte en France, nous pensons que rien ne les menace tant qu'ils ne sont pas installés dans des prisons. Le fait que de véritables commandos armés en guerre puissent livrer des batailles rangées en pleine ville, la dernière ayant duré plus de 20 minutes pour libérer des tueurs incarcérés, ne peut en effet être qu'une énorme plaisanterie qui ne doit pas inquiéter les citoyens français, puisque les auteurs de ces attaques étaient déguisés en policiers, ce que ne sauraient bien sûr jamais faire des terroristes islamistes. C'est vrai, on n'imagine pas un islamiste se déguisant en policier pour monter un attentat. Heureusement, parce que s'ils en avaient l'idée, on est mal parti. C'est signé le président du CNC, Roger Olindre. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Je reviendrai tout à l'heure sur les diverses annonces. Monsieur Le Bessellier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez nous présenter le dernier numéro de Fidélitaire, qui est une basse attaque contre l'orthodoxie.
Pas du tout. Alors tout d'abord, je vous offre un livre, monsieur de Becquetch.
Je suis...
Voilà, le dernier livre de Clovis. Clovis se lance dans la littérature, puis c'est un recueil de nouvelles, écrites par quelqu'un qui faut suivre, parce qu'elle a beaucoup de talent, c'est Gabrielle Cluzel, on en entendra reparler, elle a déjà fait un premier livre de nouvelles régionales sous un autre nom, et elle se lance avec Clovis dans des nouvelles tout à fait, bon j'aime pas trop ce mot, mais enfin politiquement incorrect à certains égards.
Non conformiste,
ça sera mieux. Donc lisez ça ce soir, comme ça vous empêchera de dormir, et puis vous inviterez, oui parce que, non mais ça vous empêchera de dormir, parce que vous avez envie de finir.
Ça s'appelle Rien de grave.
Voilà, Rien de grave aux éditions Clovis, mais on en reparlera parce que vous inviterez l'auteur.
Ça dépend, on va discuter des conditions.
Voilà, très bien. Alors, je viens effectivement présenter le dernier numéro de Fidélitaire, le numéro 152 de mars. Alors, avec trois choses, un grand dossier sur l'orthodoxie, non pas une attaque, mais son histoire, sa position par rapport à la foi catholique. Donc l'origine de ce dossier, c'est tout simplement l'anniversaire de la chute de Constantinople, qui est un drame pour toute la chrétienté, la destruction de Constantinople par l'islam. Et
je crois que vous faisiez allusion à ça, la destruction par les Vénitiens.
Le professeur Hers, qui nous raconte l'histoire de la chute de Constantinople, nous rappelle qu'effectivement, dans l'imaginaire et les souvenirs des orthodoxes, des phociens, comme nous disons, des cibles de Phocius plus exactement, la destruction l'empire latin de Constantinople est une plaie ouverte qui ne s'est pas encore refermée, auquel ils sont très sensibles. Donc c'est un dossier qui fait un petit peu le tour de ce que nous avons de commun, de proche avec les orthodoxes, et notamment leur fidélité à leur liturgie et à leur patrimoine, et en même temps les divergences fortes et la position tout simplement catholique. Mais il y a beaucoup d'histoire.
Ça me permet de me livrer à mon petit numéro habituel de provocation. Au fond, Vous savez bien ce que j'en pense. Est-ce que la fraternité Saint-Pédis serait pas un petit peu une église autocéphale quelque part, comme on dit maintenant?
Non, justement, ce numéro a pour but notamment de rappeler que d'abord, avant tout et absolument, nous sommes catholiques. Donc nous sommes membres de l'Église catholique et que nous sommes fidèles à la foi catholique et que c'est la raison fondamentale de n'être pas orthodoxe, c'est que précisément les orthodoxes ne sont pas n'appartiennent pas à l'Église catholique, seule voie objectif de salut, mais cela dit, dans la situation actuelle, beaucoup de gens se sont laissés attirer par l'orthodoxie, par cette fidélité à la liturgie, par cette fidélité au patrimoine, et nous marquons à la fois toute l'histoire, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, ce sont les prêtres de Mérigny qui sont quand même bien spécialisés là-dessus, qui nous ont fait plusieurs articles pour nous expliquer, et puis une personne qui connaît très bien, qui est lui-même de rite oriental catholique, qui a donné plusieurs articles ou encadré sur les rites, qu'est-ce que c'est que l'orthodoxie, quelle est son histoire, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'histoires à connaître avant de trancher de façon sévère. Mais en même temps, bon, nous rappelons quand même que l'orthodoxie et le catholicisme, c'est pas pareil et que ça ne peut pas...
Vous l'avez fait lire à votre...
Non, je l'ai publié après son de départ pour le Canada.
Oui, alors il faut quand même préciser pour les auditeurs de qui on parle.
Voilà, du professeur Bush, qui est venu nous visiter à l'occasion de la remise du prix Saint-Louis et qui est effectivement orthodoxe. Donc j'avais pas
qui est l'auteur d'un livre admirable sur les
catholiques. Sur les carmélites de Compiègne. Donc il y a également dans ce même numéro un article de Philippe Vilgier sur Donoso Cortés, ce grand penseur contre-révolutionnaire. Un bel article pour redécouvrir ce penseur trop peu connu mais qui est d'une grande richesse doctrinale. Et puis il y a également à la fin du numéro une lettre de Mgr Perle qui je crois mérite vraiment d'être connue, une lettre toute récente puisqu'elle est du 18 janvier 2003 et qui est quand même à certains égards une perle puisque Mgr Perle, donc je rappelle qui c'est le secrétaire de la commission Ecclesia Dei qui répond officiellement, puisque c'est une mise au point après la publication d'une lettre précédente, et c'est une mise au point public, où il rappelle que on peut assister aux messes.
Alors qu'il avait dit le contraire.
Voilà.
Donc il n'est pas un entêté. Quoi.
Voilà, et qu'on peut assister aux messes de la fraternité Saint-Pédis et remplir ainsi le devoir dominical, mais ce qui est le plus amusant, je trouve, c'est qu'il rappelle qu'on peut même donner de l'argent à la quête. Ce qui évidemment est très encourageant.
C'est bien.
Mais donc c'est une lettre.
C'est une perle, effectivement.
Voilà, c'est une perle fort intéressante et donc à lire. Ce sont les deux dernières pages de ce numéro de Fidélité. Alors je rappelle, l'adresse. Donc Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. Le numéro de téléphone. C'est le 01 69 78 30 23. 01 69 78 30 23. Et l'abonnement pour un nouvel abonné, c'est 33 €, un abonnement annuel. Et on peut également avoir cette revue, bien sûr, à la librairie du Ken ou à France Livre, 6 rue du Petit Pont, 75-05 Paris. France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement.
Merci, monsieur l'abbé. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel Amiche? Il rentre dans le studio, il se l'agite tout le monde, etc. Il
veut y parler. Ah oui, on peut signaler, non, monsieur Amiche me rappelle qu'il y a un colloque sur Saint-Pédis le 29 mars à l'hôtel Lutetia sur Saint-Pédis toute la journée. L'hôtel Lutetia organisé par l'Institut Saint-Pédis et le 30 mars à Cap 15, il y a une grande réunion publique en l'honneur de Saint-Pédis. Jean Madiran signalait que c'était une année Saint-Pédis dans plusieurs articles de présent et il insistait sur le fait que les laïcs avaient lancé l'idée, plusieurs laïcs avaient lancé l'idée, dont monsieur de Beketch, mais les curés ne sont pas en reste puisque donc il y aura ce colloque le 29 mars. La réunion publique le 30 mars et le pèlerinage de Pentecôte est consacré à Saint-Pédis.
Je ne sais pas si
le
micro est ouvert ou pas. Bonsoir, mon Serge. Non, c'était pour dire parce que c'était le centenaire de l'élection. Voilà, de Sarto au suprême pontificat.
Hein. Voilà.
Et je veux dire que je me fais un peu publicité, j'en fais jamais. Alors mes collaborateurs qui me disputent, j'allais dire un mot qui ne se dit pas sur Radio Courtoisie. Donc nous éditons, malheureusement, ce sera pour début avril, ce sera après le colloque, j'ai peur, un livre qui s'appelle L'élection de Saint-Pédis, qui est dû à notre bon camarade l'abbé Chanu.
comment va-t-il, ce bon
Très très bien, il va venir bientôt à la radio d'ailleurs, et c'est un livre absolument époustouflant.
Puisqu'on fait de la pub, nous rééditons Les Belles Histoires Belle Vie, donc consacré à Saint-Pédis, voilà, qui sera là pour le colloque et pour le à 4-15, il y aura cet album.
Merci. Ben alors je vous signale, monsieur l'abbé Cellier et mon cher Daniel Amiche, que par vos bavardages, vous venez de faire perdre son temps d'antenne au père Arloache, qui était venu spécialement. Non, je le blague un peu. Oh, bien sûr qu'on va lui donner la parole, mais surtout qu'il reviendra en plus dans le 26.
Mercredi prochain.
Non, pas mercredi prochain, le 26.
Ah, le 26.
Alors, question, je te laisse répondre, Patrick. Quel était le grand monsieur sympathique qui vendait la France courtoise à la sortie de l'église Notre-Dame des Armées?
Je réponds, bonsoir Serge de Beketch, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie, de Versailles, des Yvelines, du monde entier et au-delà. Et si je mentionne particulièrement ceux de Versailles et des Yvelines, c'est que c'est à moi, Patrick Goffman, qu'ils ont fait un accueil extraordinaire à la porte de la chapelle Notre-Dame des Armées, puisque j'ai vendu à la criée 27 exemplaires du libre journal, puissamment aidé par la présence de Bastien Thiry à la une, en photo à la une, et puisque c'était une messe à sa mémoire pour le 4e anniversaire de sa mort par fusillade.
On se retrouve dans 2 minutes.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, dirigé en seconde partie par Daniel Amiche, avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck. Émission diffusée en direct mercredi 12 mars 2003 de 18h à 21h. En différé, jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Ah, mon père, c'est la gloire. Il nous fait la une des journaux les plus branchés. C'est pas Gala, mais La Nef. Avec une superbe photo du père Arouache avec son gang.
Oui, et puis il y a aussi du père prieur, le père Alain
Hauteville. Non, mais là, je parle du gang. Si j'avais parlé du prieur, j'aurais pas dit du gang. J'aurais dit les frères. Non, bien sûr, il y a le père Alain, il y a le père Hervé, ils sont tous là. Mais c'est une photo superbe parce que vous êtes sur un tas de granit.
D'ailleurs, qui proviennent de la région parisienne.
Granit
des grands parcs de pierre.
C'est du granit rose? Non, on voit pas sur la photo.
Il y a du granit rose. Ah, ouais. Du rose de la clarté, magnifique.
Et alors, ça, c'est une photo qui est extraordinaire parce que vous, étant donné la couleur, c'est une photo en noir et blanc, étant donné la tonalité de la photo, on a l'impression que vous-même, vous êtes des hommes de granit, ce qui est pas loin de la vérité. Et il y a un frère qui brandit un étendard.
C'est la bannière de Jeanne d'Arc.
La bannière de Jeanne d'Arc. Tout ça évoque...
C'est plus beau qu'Iwo Jima.
Voilà, ça évoque Iwo Jima, exactement.
En plus beau.
En plus beau, bah oui, en plus chrétien de toute façon. Et puis en monocolore. Et donc, vous avez un grand papier dans la nef, une interview... Pardon, une interview du père Alain, très intéressante, et qui permet de rappeler ce qu'est le village de Riaumont et ce qu'est l'œuvre dont vous avez été le supérieur pendant longtemps avant de vous décharger de cette lourde tâche sur le pauvre père Alain qui n'en demandait pas tant et de vous réserver les tâches de directeur de la maison d'enfants. Où en est-on de toutes vos aventures?
Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles du procureur de la République de Béthune depuis maintenant 2 mois. C'est un nouveau procureur de la République. Il se met sûrement au courant de ce que j'appellerai l'affaire, mais l'affaire qui a dévié, puisqu'il ne s'agit plus du petit Romain. L'enquête semble bouclée et devrait conclure à des raisons familiales et non à des raisons pédagogiques, comme si c'était nous qui avions tué l'enfant, car quand les policiers sont montés sur la colline, ils voulaient tout de suite, et les questions allaient directement là-dessus, prouver qu'on avait maquillé, en quelque sorte, cette disparition de l'enfant, parce qu'il était gênant pour nous. Enfin, vraiment, on était accusés, on était regardés comme presque des meurtriers, il ne faut pas l'oublier. Et puis, actuellement, ils veulent aller sur la maltraitance, c'est-à-dire que nous avons maltraité sûrement certains enfants. Donc les questions, le harcèlement vient là-dessus. Mais tout est calme depuis 2 mois. Il y a d'autres menaces, mais bon...
Le village du Guerveur, le Christ.
Alors, je voulais simplement vous dire, pour parler simplement de l'église, on a inauguré juste ce petit mot. Il y a une pierre de fondation qui a été bénie par l'évêque d'Arras. Et la nuit, un commando, vers 2h du matin, est venu pour voler la pierre, la casser. Heureusement, on avait une garde. Et il y a 4 hommes qui étaient là, dont un a perdu ses papiers. Et on s'est aperçu que c'était un professeur de la région issu d'un syndicat de l'ultra-gauche.
Attendez, vous vous plaisantez là.
Et
un enseignant de la région de Riaumont est venu de nuit.
Oui, de nuit.
Avec 3 complices. Oui. Il a perdu ses papiers, c'est un imbécile en plus.
Voilà. Il y a une enquête de police qui est en cours. Il a été convoqué par le commissariat de police de Liévin. Et si on n'avait pas eu une garde, d'ailleurs la pierre maintenant est partie du chantier, rentrer dans l'ancien bureau du père Revet pour protéger cette pierre.
Mais vous n'allez pas pouvoir rentrer à l'église tous les soirs dans le bureau du père Revet.
Mais j'ai pris, cette nuit, j'ai pris 3 types qui étaient dans Riaumont à 11h écart et qui avaient passé nos clôtures. Et je les ai pris au callback, etc. Je suis religieux, comme vous savez, je suis doux et humble de cœur. Ça a été terrible parce que alors ils m'ont quand même demandé pardon parce que bon, enfin bref, bon. Je passe le village breton.
À partir de combien de coups ils ont commencé à demander pardon?
Ils disaient que je criais trop fort et que j'allais réveiller les enfants. C'est plutôt eux.
Maltraitance, on y revient.
C'est le mot de l'aumônier du rugby qui disait il vaut mieux donner que recevoir en parlant des coups.
Donner que recevoir.
Le village breton, pour faire court, vous savez que maintenant il y a un chef scout qui est au village breton et qui s'appelle Gaston Petit.
Pardon, je peux pas. Je pense à la tête des types qui ont dit viens, on va emmerder les curés quand ils sont tombés sur le terrain. Si t'as que des idées comme ça, tu peux les garder pour toi.
Le problème, c'est qu'ils se sont enfuis, mais il y a des projecteurs qui s'ouvrent à chaque fois que vous passez, donc ça faisait terrible, si vous voulez, comme spectacle, ça faisait apocalyptique. Et alors, ce qu'il y a, c'est que vous savez que quand même je suis coureur de cross et que j'ai quand même gardé pas mal de muscles. Et j'ai pris un raccourci. Et eux, ils ont fait la boucle et je suis arrivé comme un diable, parce que si je disais ça, ça serait pas possible. Mais je suis arrivé, j'espère, comme un ange, défenseur, devant les grilles, les mains comme ça, et ils sont tombés dans mes bras. Ils se sont demandé par où j'étais passé, parce qu'en pleine nuit, vous savez, faire 50 mètres à une vitesse pareille, c'est incroyable. Bon Dieu m'a donné des forces. Vraiment, je suis baba.
Je crois pas qu'ils vont revenir avant un moment.
Alors oui, je crois que... Bon bref, alors, le village breton, parce qu'on a des villages partout maintenant. Il y a le village breton, et le village breton, mais tout se passe bien. Voilà, j'en parlerai le 26 mars, une date qui est importante pour notre combat, l'anniversaire de la fusillade de la rue Gisli. Mais bon, Je reviendrai pour parler du village breton. Je demanderai de nouveau un petit peu d'argent parce que le manoir s'écroule.
Non,
il faut sauver. Il faut sauver une deuxième maison. Et puis tous ceux qui m'écoutent, je vous donnerai des nouvelles.
Je me demande si vous n'êtes pas un peu intéressé par moment quand même.
Absolument pas. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas de chambre vraiment réservée là-bas. On est vraiment dans la brousse et dans les ruines. Ouais. Je voulais simplement dire un petit mot. C'est le dernier, Daniel, c'est le dernier, sur l'homélie, le sermon que j'ai fait au Val-de-Grâce pour le commandant Guillaume. Nous avons fait 100 cassettes grâce à Serge de Becquetch. Si, c'est grâce à lui. Et elles sont parties, seulement on nous reproche une mauvaise écoute au niveau technique.
Par rapport à ce qui était l'original, voilà. C'est prodigieux ce qu'on a réussi.
Il y a un laboratoire qui a travaillé sur la cassette.
A fait pour ça. Je le remercie d'ailleurs. Parce que c'était totalement inaudible. Et maintenant, on entend. Alors, c'est vrai qu'il y a de la réverbération.
Voilà. On peut jouer quand même, ceux qui m'écoutent, on peut jouer avec les boutons. Surtout, ne m'écrivez pas pour dire que la cassette est lamentable. J'ai déjà reçu 3 lettres. Donc, j'avais déjà prévenu. C'est un tout petit magnétophone de caméra, celui de la caméra de Michel Barski, qui a enregistré. Et avec les résonances qu'il y a dans la chapelle du Val-de-Grâce, on ne pouvait pas faire mieux. Donc, soyez indulgents. Et voilà.
De toute façon, vous ne remboursez pas.
Alors, je ne sais pas comment on peut faire pour rembourser.
Non,
une fois que l'argent est parti, il n'est plus là. Hein.
Quand l'argent est là, on ne la rend pas. Voilà. Non, vous n'allez pas nous faire des histoires pour 15 euros. Ils vont. Non.
Merci,
merci
Serge.
À vous, mon père.
D'avoir donné la parole. Merci.
Rappelez la.
Cher Daniel Amiche, qui m'avait supporté. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il me supporte et que je mange une partie de son émission.
Oui, mais c'est après, c'est avec moi que ça.
Il reste doux avec moi et ça, j'en suis vraiment époustouflé.
Mais il est doux. Il est d'un naturel doux. Association Notre-Dame de Riomont, CCP, compte chèque postal, ça veut dire 31 00 04 ou 3100 04 F comme François, Lille. Voilà, je crois que ça suffit parce qu'après il y a des trucs que
peut-être qu'il faut le redire hein, parce que
Association Notre-Dame de Riomont, compte chèque postal 31 00 04 F. Et vous envoyez ça, soit vous pouvez faire un virement, ou si vous voulez envoyer un chèque, c'est Village de Riomont, boîte postale 28, 62 801, Liévin, CEDEX. Boîte postale 28, 62 801, Liévin, CEDEX. Et les chèques sont à quel ordre alors? Association Notre-Dame de Riomont.
Notre-Dame de Riomont. Voilà. Et pour le village breton, c'est toujours scout et guide de Riomont. C'est
alors, si vous préférez financer le village, voilà. Pour qu'enfin le père ait une chambre là-bas, ou qu'il ne soit plus obligé de coucher dans les ruines du vieux manoir, vous écrivez donc.
Tout l'argent que vous économisez pour dans vos efforts de carême, par exemple, ça peut aller à des œuvres pies. Je trouve que c'est bien plus intéressant.
Je reviens bien mercredi, mais pas prochain, le 26.
Non, le 26,
mars.
Parce que si vous revenez le mercredi prochain, vous tomberez sur Lugan. Bon. Je suis pas certain qu'il sera disposé à vous intégrer dans son émission historique. Vous savez, il a ses catégories, ce garçon.
Mais Riomont, c'est un épisode historique.
Alors essayez de lui vendre ça, il n'y a pas de problème. Je suis sûr qu'il va
toujours tenter.
Merci mon père de votre visite qui nous fait toujours immensément plaisir.
Merci, merci.
Et maintenant les annonces.
Et maintenant les annonces. Voilà, hélas. Alors, je pensais qu'elle aurait oublié.
Je rappelle l'adresse du Cri de la Chouette, boîte postale 444 75 327 Paris CEDEX 07. Abonnement 16 euros. Je rappelle les livres aussi dont on a parlé, Minorité et régionalisme de Pierre Hillard, aux éditions François-Xavier de Guibert, 28 euros. Et Rien de grave, nouvelle de Gabriel Cluzel, aux éditions Clovis. Dans le cadre des conférences de Saint-Germain, organisées par la Librairie nationale, Pierre-Henri Bunel et Guillaume Faye parleront demain, jeudi 13 mars à 20h, de l'Irak, poursuite de la fuite en avant américaine. Salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e. Prix d'entrée 6 euros, 4,50 euros pour étudiants et chômeurs.
C'est place Saint-Germain. Oui. À propos de la Librairie nationale, j'invite les auditeurs à leur réserver leur clientèle tout spécialement en ce moment. Ils ont besoin de sous, ce qui n'est pas du tout original, mais enfin, ils en ont encore plus besoin que d'habitude. et on peut les aider à faire face à des difficultés.
Vous donnez leur adresse?
Oui, absolument.
Nous la donnons dans le Libre Journal et nous suggérons discrètement d'acheter le livre de Payan et Cohen, puisque puisqu'il est à près de 300 000 exemplaires. Alors au lieu de donner votre argent à n'importe qui, si vous voulez le livre de Payan et Cohen, vous pouvez le commander franco de port, 29 € à la Librairie Nationale, 12 rue de la Sourdière, 75 01 Paris. Ce serait une bonne action, en effet. Oui. Ils ont 15 000 euros à payer et Sarkozy, et le grand homme d'ordre Sarkozy les convoque à nouveau devant la 17e chambre.
Concert Berlioz dans l'église de la Trinité, jeudi 13 et vendredi 14 mars à 20h45, l'enfance du Christ, la dernière nuit de Sardanapale. Bon. Samedi 15 mars, de 15h à 19h, Pierre Descaves dédicacera La guerre des immondes et Huguette Pérol dédicacera Femme d'ambassadeur.
Et où ça donc?
Librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Grande vente dédicace de bienfaisance des éditions des écrivains catholiques, le samedi 15 mars, de 14 à 19h, à l'école Bossuet, 51 rue Madame, Paris 6e.
Alors, on a beaucoup d'amis qui sont... Hein.
Alors, il y en a 60, je vous en dis quelques-uns.
Quelques-uns, oui.
François-Marie Algou, José-Marie Bouchet, Pierre-Jean de Robert, Yvan Gobry,
le père de Robert, oui,
Olivier Kraft, Monseigneur Mansour Labaki, Père Antoine Moussali, Isabelle d'Orléans, comtesse de Paris, Michel de Poncin, Daniel Raffard de Brienne, Jacques Trémollet de Villers. Le groupe Omnes Fratres, ou Tous Frères, vous fait part de sa prochaine rencontre qui aura lieu le dimanche 16 mars de 14h45 à 18h, 19 rue des Tanneries, Paris 13e. Deux exposés y seront donnés. Première partie, la lettre du pape Jean-Paul II, le rosaire de la Vierge Marie, présenté par le père Francis Vol. En deuxième partie, l'aide à l'église en détresse à travers le monde, œuvre fondée par le père V. Renfried, récemment décédé. Présentation par le père Samer Nassif.
Alors, Omnes Fratres, Tous Frères, c'est pas des francs-macs. Hein,
Libre participation.
Je m'indique quand même. On pourrait s'y tromper, mais non.
Fête de Saint-Joseph, fête du travail et de la patrie, le mercredi 19 mars à 18h à Notre-Dame-du-Lys, 7 rue Blomet dans le 15e, conférence-débat mondialisme laïque ou universalisme chrétien, par Georges Jacovlev.
Point de carême le 19, hein. Je précise aux gens, le carême est levé le mercredi 19. Oui.
On va pouvoir s'en coller plein la lampe.
Pourquoi c'est levé?
Bah, c'est comme
parce
ça.
Que c'est levé,
c'est
évidemment Saint-Joseph.
Bon, 19h30. Donc,
la fête, comment on appelle ça?
On a dit. Alors, à 18h, c'est la conférence, suivie à 19h30 de la messe de Saint-Pie-V. Participation aux frais, 5 €. Dans le cadre. C'est les cercles littéraires du Roseau d'Or. Qui présente M. Rémi Soulier, une conférence sur Jean Rictus, le dernier poète catholique, le mercredi 19 mars de 20h à 21h.
Bon, voilà.
Il y en a encore.
Jeudi 20 mars, 78, je vous ai dit. Jeudi 20 mars, 17h, à l'amphithéâtre Montgolfier.
Ah oui, ça c'est très important.
À l'hôtel de ville de Versailles.
C'est pas que le reste ne l'est pas, mais ça, recommencez.
Je recommence. Le jeudi 20 mars, à 17h, à l'amphithéâtre Montgolfier, à l'hôtel de ville de Versailles, conférence sur Pie XII, la papauté et la Shoah, par Philippe Levillain, professeur d'histoire à l'université de Nanterre, membre de l'Institut universitaire de France.
Alors, il faut savoir, je ne sais pas si ce vilain l'est vraiment ou s'il est gentil, mais il faut quand même aller écouter cette conférence. Non, ne moquez pas de moi, s'il vous plaît. Il faut quand même aller écouter cette conférence parce qu'il va dire des choses certainement très intéressantes. Et si c'est à la mode, Pie XII va encore prendre son paquet, si j'ose dire. Et ça serait pas mal qu'il y ait des gens pour exprimer des positions divergentes.
Une réserve.
Une très jolie formule. Du 21 au 30 mars, 6e semaine du Marais chrétien, exposition, spectacle, concert, conférence, visite. Ah, pour chrétien. Tout renseignement.
Je pensais que c'était.
Bah non, alors, c'est chrétien aussi. Enfin, ça n'est pas que. C'est aussi chrétien, voilà. Bon, continue.
On parle sur les annonces. Donc, pour tout renseignement, 01 44 54 35 91. La librairie Armes et Racines, 11 place Saint-Louis à Versailles, vous invite le samedi 22 mars à partir de 14h30 à une séance de dédicace du livre Le Royaume de Boré de Jean Raspail.
Alors écoutez-moi, le livre Le Royaume de Boré de Jean Raspail que j'ai reçu il y a deux jours, je me suis mis dedans hier, c'est un des plus grands Raspail, c'est un des plus grands, vraiment. C'est une pure merveille. C'est tout Raspail, et là c'est un livre mythique. Donc précipitez-vous, Versaillais et circonvoisins, à la librairie Terres et Racines, Âmes et Racines, je sais pas pourquoi je vais toujours dire Terres et Racines, Âmes et Racines, samedi prochain?
C'est le 22 mars.
Ah, samedi en huître.
À partir de 14h30. Voilà.
Et vous aurez la chance.
L'adresse?
11 place Saint-Louis à Versailles.
Vous aurez la chance de voir Jean Raspail, et vraiment ce livre est une pure merveille. Il y a un autre bouquin que je viens de recevoir, mais j'en reparlerai, c'est le livre de Christian de Lamazière, Le Rêveur Blessé, qui vient de paraître la suite du Rêveur Casqué, 30 ans plus tard. Allez, on arrête.
Le mardi 25 mars, à la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, à 13h30, rendez-vous donc pour entendre les plaidoiries dans l'affaire de l'affiche du film Amen.
Merci,
ma petite.
Parce que le reste, c'est plus tard. Voilà. On aura le temps de revenir.
Le cœur, mon joie, déjà. Soyez gentils avec la mer agitée, quoi. Alors, donc, pour la mi-carême, le jeudi 27 mars, à partir du 20h30, 21 rue Campagne Première, dans le 14e, dîner en chantant avec le cœur mon joie Saint-Denis, 25 €, tout compris. Et vous inscrivez dès maintenant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, au 01 43 35 56 64. Et puis vous vouliez aussi parler, alors Librairie Nationale 12 rue Lurie, ils vous disent que depuis le 20 janvier, vous rappelle que depuis le 20 janvier, vous pouvez entendre la chronique de l'Europe Libre, journal quotidien par téléphone au 08 92 69 07 32.
Bon, bien, vous vouliez parler de la griffe. Patrick, au point où on en est, je veux dire, arrivé, là on en est arrivé, donne-nous quand même une petite annonce sur le Libre Journal, mais alors une minute,
on ne donne pas
le sommaire, mais donne au moins l'adresse, donne quelque chose quand
on
même.
On a empiété 20 minutes, oui, effectivement.
La honte est sur nous.
Vas-y, dis quelque chose, je te donne 2 minutes, allez. Top, c'est parti.
2 minutes, top, c'est parti. Alors, je commence par dire que je viens de rencontrer un confrère journaliste que je ne peux nommer parce que vous connaissez les démocrates, il perdrait son travail, qui rentre de Moscou. Je sais que vous vous intéressez à l'affaire Limonov, et donc le dernier épisode, dans l'attente du verdict qui doit tomber début avril, c'est la véritable cérémonie qui a eu lieu à Moscou pour les 60 ans de Limonov. Ça se passait à la Maison des Écrivains, ancienne résidence de l'Union des Écrivains très officielle, et il y avait là toutes les télés, toute la presse, la crème des écrivains russes, et il a été dit très officiellement, donc par les confrères russes de Limonov, qu'ils attendaient que le gouvernement le libère et lui fasse des excuses. 3 secondes pour dire que le sympathique Jean-Laurent, je crois, Cochet, oui, passe du théâtre Mouffetard, 250 places, au théâtre Tristan Bernard, 400 places. Alors c'est bien, parce que comme ça, il y aura plus de spectateurs dans la salle que sur la scène. Et je voudrais mentionner, j'ai encore une minute là, oui. Avant encore le Libre Journal, je voudrais mentionner cette lettre du groupe de presse Bayard, parce que j'ai posé ma candidature à un emploi de correcteur pour La Croix. Alors Beckett m'a dit, t'as des chances parce que t'es athée, mais d'un autre côté, comme tu fricotes vraiment avec beaucoup de catholiques, je crois que tu n'auras pas ce job. Alors je vous le confirme, je reçois cette lettre. Monsieur, vous avez reçu à notre annonce référencée ci-dessus, et nous vous remercions de l'intérêt que vous manifestez à l'égard de Bayard Presse. Je suis surpris parce que je lui manifeste aucun intérêt. Après avoir étudié votre candidature avec la plus grande attention, et malgré les qualités qu'elle présente, nous avons le regret, etc. Alors, moi, je suis pas assez vaniteux. Je suis vaniteux, mais pas assez pour croire que je suis persécuté et que on me laisse pas travailler, sachant que le Libre Journal me nourrit, disons,
chichement. Mais c'est bon, on est en carême, là, c'est bon.
Voilà. Je pense pas que ce soit mes fréquentations catholiques qui me veillent ça, mais le plus grand crime du monde, comme disait Lénine, c'est-à-dire d'avoir passé 50 ans. Je sais que nous avons beaucoup de gens de gauche, qui devraient apprécier mon athéisme à l'écoute, beaucoup de professionnels de la presse et du livre. Donc je voudrais leur dire que si eux, ils savent comment caser un correcteur qui a 20 ans de métier, dont la croix ne veut pas, qui a beaucoup d'expérience en correction, en préparation de copies, presse et édition, ils peuvent m'écrire au Libre Journal. Le Libre Journal, dont je n'ai plus le temps de donner le sommaire, je mentionnerai seulement notre scoop de la décade, à savoir que nous avons recueilli les confidences exclusives d'un informateur de Monsieur Payan, le co-auteur de La Face Cachée du Monde, informateur qui n'était pas satisfait de l'usage falsificateur, d'après lui, qui était fait de ses confidences à Payan. Alors il nous a fait ses confidences à nous et montré la face cachée de Payan. Et je vous garantis que c'est un petit scoop. Vous me reprenez en général, vous me dites non, exclusivité.
Une exclusivité, voilà. Oui.
Alors, en exclusivité pour Radio Courtoisie, je donne l'adresse à laquelle on peut envoyer un carnet de timbres pour recevoir ce scoop et tout le numéro qui est autour, avec ses signatures historiques, Brignot, Beketch, etc. Donc, un carnet de timbres, 110 € pour être abonné un an, 3 numéros de 24 pages par mois, à l'adresse suivante, SDB, 4 places, France List, 75 010, Paris.
Il est bien avec Patrick, pour un mec qui nourrit richement, il est bien quand même.
C'est scoop toujours.
Merci Daniel, pardon à vos invités. Ah, dans 15 jours, que Dieu nous garde.